Bitnet, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, bienvenue, Appel sur l'actualité, lance le débat sur RFI. Aujourd'hui, l'explosion démographique. Démographique africaine. Selon un rapport de l'UNICEF sorti hier, la population du continent va doubler d'ici 2050. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants. Taux de fécondité, 4,7 enfants par famille en moyenne. En même temps, le taux de mortalité baisse peu à peu. Face à cette tendance, les spécialistes voient d'immenses défis à relever. L'urbanisation qui est déjà galopante, le partage des richesses, nourrir cette population et puis offrir la santé, l'éducation, des services à toutes ces nouvelles personnes qui vont arriver. Que pensez-vous de ce phénomène? Comment faire face? Cette hausse de la population est-elle un risque ou une opportunité? Nous en parlons ensemble. 33 9 693 2 fois 70. Vous pouvez aussi parler sur nos réseaux Facebook et Twitter. Sur Facebook, par exemple, Mokhtar nous dit que la population, c'est ce qui permet à un pays de se développer. C'est aussi ce qui peut le couler si vous la négligez. C'est un moteur de prospérité économique des années à venir. En ligne avec nous, nous avons Désiré qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Désiré.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Alors selon vous, que faut-il faire pour faire face à cette explosion de la démographie africaine ?
D'abord, avant de donner mon point de vue, il faut faire d'abord l'état des lieux. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la population africaine est de 1,1 milliard d'habitants. Et avec ces 1,1 milliard d'habitants, les États africains n'arrivent pas à répondre aux besoins fondamentaux des populations africaines, tels que la santé, la nutrition, l'éducation, les logements. Et il y a un manque de moyens dans le système éducatif, d'où le fort taux d'analphabétisme, avec plus de 50% de la population qui est analphabète, la famine, la délinquance juvénile, le sous-développement. Et au plan économique, l'Afrique ne parvient pas à absorber les millions de jeunes africains qui déboulent sur le marché du travail, et qui sont désœuvrés et peuvent grossir le rang des gangs urbains, comme par exemple les microbes à Abidjan. Et toujours en Côte d'Ivoire, on a le phénomène des rats à San Pedro, et encore des groupes armés. Le taux de croissance est de 5% actuel, ne suffira même pas pour pouvoir absorber ces jeunes-là. Au plan écologique ou environnemental, la moitié des émissions polluantes organiques pourraient être produites par l'Afrique en 2030, qui est grande consommatrice du charbon de bois à usage domestique et qui utilise aussi les véhicules d'occasion, généralement appelés en Côte d'Ivoire, France au revoir.
Donc effectivement, un certain nombre de défis qui sont déjà là. Hein. Vous disiez l'emploi, la délinquance juvénile, les terres, le développement. Et est-ce que vous craignez que ça ne fasse que s'aggraver justement avec l'augmentation de la population?
On peut être optimiste parce que cette population pourrait être un avantage pour l'Afrique, car elle sera plus supérieure à celle de la Chine en 2050 et sera trois fois plus grande que la population européenne. Et les populations vivront dans des villes ou souvent dans les mégalopoles comme à Abidjan, Luanda, Kinshasa ou encore Lagos, et auront accès à toutes commodités qui répondent à la modernité, telles que l'électricité, l'eau ou au TIC, qui sont devenus un véritable facteur à l'ère de la mondialisation. Et cette croissance et l'expansion des classes moyennes généreront un vaste marché intérieur et encore très prometteur pour l'Afrique et favorisera certainement l'arrivée d'investisseurs dans plusieurs secteurs, dont le secteur minier, le secteur agricole.
Donc c'est un formidable espoir selon vous, en tout cas cette arrivée de population, cette jeunesse africaine qui est déjà bien là, qui ne va cesser d'augmenter. Merci beaucoup Désiré de nous avoir appelé depuis Abidjan. Un compatriote à vous est en ligne également depuis la Côte d'Ivoire. Jean, bonjour.
Bonjour Nemet.
Pour vous, cette augmentation de la population, c'est à la fois un risque et une opportunité, c'est ça ?
C'est ça, oui. Parce que je parle du point de vue de votre compatriote, M. Jean Baudin, qui disait qu'il n'y a de puissance ni de richesse que d'hommes. Ainsi, si nous savons que nous avons une population qui va doubler d'ici 2050, ça doit être à la fois une joie pour nous, mais bon, et parce qu'on va s'enrichir, on va avoir beaucoup de main-d'œuvre abondante, mais quelle qualité de personne on va avoir à l'échéance 2050? C'est là la question. Parce que si nous ne sommes pas à mesure de prendre en charge les enfants qui naissent maintenant, d'ici 35 ans, ils seront des gens comme ce que nous connaissons qui vont gonfler les rangs des bandes armées et tout ce que nous connaissons qui sont nuisibles à la société.
Et justement, on sait les difficultés que l'Afrique a déjà absorbé cette population et à fournir, comme vous dites, des services de base, hein, éducation, santé. Est-ce qu'il faudrait, comme certains le préconisent, limiter tout simplement le taux de fécondité?
Non, je ne crois pas que c'est là la solution. Je crois que la solution serait d'instruire les gens. Eux-mêmes vont trouver l'idée de ne pas trop faire d'enfants parce que on a à s'occuper d'un enfant, c'est du travail. Tout le monde n'aura pas ce temps-là. Et donc, ils vont volontairement limiter eux-mêmes leur naissance.
Donc, pour vous, avec l'éducation, en éduquant, oui, un peu plus les gens, ça pourrait faire, oui, baisser ce taux de fécondité automatiquement?
Oui, je suis absolument sûr parce que je crois que l'Europe est arrivée à vieillir totalement sa population à partir de l'instruction. Et des gens n'ont pas le temps de concevoir jusqu'à s'occuper d'un enfant qui peut prendre la maman, le temps de la maman pendant au moins 2 ans. Et bon, je ne crois pas que tout le monde aura le temps de faire cela. Alors que si on laisse les enfants à bas âge, déjà à 14 ans, les jeunes filles peuvent procréer jusqu'à ce qu'elles aient 40, 50 ans. Bon, vous voyez un peu le nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir.
Merci beaucoup, Jean. Ilias est à Niamey, non, même à Gaïa, à 300 km au sud de Niamey, au Niger. Peut-être il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ilias, est-ce qu'il faut, selon vous, baisser ce taux de fécondité? On rappelle qu'il est de mémoire, je dis 4,7 enfants par famille en Afrique. Et au Niger, c'est même 7,5 enfants par famille. C'est le taux de fécondité le plus élevé sur le continent. Est-ce qu'il doit baisser ce taux, selon vous, Ilias?
Pas du tout. Ce taux ne peut jamais être baissé dans la mesure où nos dirigeants, il n'y a pas longtemps, ont dit sur RFI que nous avons un taux de croissance économique à 2 chiffres. Alors, pour celui qui a un taux de croissance à 2 chiffres et qui se retrouve avec un taux de croissance démographique de 3,9%, normalement, il n'y a pas de quoi à s'alarmer.
On sait bien qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, la croissance ne bénéficie pas forcément à tout le monde.
Non, mais c'est sûr, surtout au Niger, parce que nous sommes classés derniers. Les gens voulaient justifier ça par le taux d'accroissement de la population. Or, nous savons le recensement de 2012, comment ça a été fait. Pendant que certaines régions bénéficiaient de la logistique et de l'encadrement nécessaire pour faire le recensement, certaines régions ont carrément été abandonnées. Il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de carburant, et il n'y a pas de questionnaire et... On s'est dit qu'on a fait un bon recensement pour propulser certaines régions au devant des régions les plus peuplées. Et bon, ça, nous connaissons l'idée qui est derrière. Ça, c'est 2016 qu'on vise. Mais toujours est-il que chez nous, au Niger, il n'y a rien qui est fait pour justement mettre la population à l'abri de tous les problèmes qu'une forte poussée démographique pourrait engendrer.
Donc la balle est dans le camp des politiques, hein, si je comprends bien ce que vous me dites. Merci beaucoup, Ilias. Vous étiez à Niamey. On va continuer à parler du taux de fécondité avec Abou Karim, qui est à Dakar, au Sénégal. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous voulez nous parler de l'autorégulation, justement, des femmes africaines, notamment pour le nombre d'enfants?
Oui, je suis entier, j'abonde dans le sens de la plupart de ceux qui vont intervenir. Mais bon, pour moi, c'est le développement. Seul le développement et l'éducation peut faire de telle sorte que les familles elles-mêmes prendront les résolutions pour autoréguler leur population. L'Afrique n'est pas sous-peuplée, loin de là. L'Afrique, elle est sous-peuplée. Donc, le modernisme, le bien-être social de chaque famille, c'est de faire de telle sorte que les familles elles-mêmes prendront les décisions d'aller consulter gynécologues, sages-femmes et autres agents de santé pour demander à ce qu'il y ait moins d'enfants afin qu'elles puissent prendre ces familles-là, qu'elles puissent prendre en charge mieux l'éducation de leurs enfants. Et je suis contre les mesures draconiennes comme celle en Chine, un enfant, plus d'un enfant, c'est un délit. Non. Je suis pour l'autorégulation Et je pense que un de vos auditeurs tout à l'heure a dit dans le même sens que c'est l'éducation, l'enseignement et je veux dire l'enseignement et le modernisme peut faire de telle sorte que les populations elles-mêmes choisiront elles-mêmes ce qu'elles veulent faire de leurs enfants et de leurs familles. C'est ça ma théorie qui abonde peut-être dans le sens d'un de vos auditeurs qui vient de le dire tout à l'heure avant celui du Niger.
Merci beaucoup Abou Karim, vous étiez en ligne depuis Dakar, 339 693 693 70. Nous sommes en ligne avec Abdoul Karim qui lui est à Niamey au Niger. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Pour vous, cette hausse de population, cette explosion démographique, ça vous inquiète ?
Oui, effectivement, cette démographie galopante est très inquiétante. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est l'un des pays aujourd'hui qui a le taux de natalité, le taux de fécondité le plus élevé.
7,5 enfants par femme, effectivement.
Et vous voyez que c'est haut. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la modernisation, la globalisation, l'éducation est devenue très coûteuse. Donc l'éducation étant quelque chose de sacré, ça ne sert à rien de mettre au monde des enfants que vous ne pouvez pas bien éduquer.
Abdoul Karim, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les familles, notamment au Niger, font toujours autant d'enfants alors que le taux de mortalité est quand même en baisse, certes modéré, mais il diminue?
Oui, c'est ce que je disais. Et effectivement, les gens font beaucoup d'enfants par ignorance, parce que tout simplement, ils se disent que non, c'est le bon Dieu qui nourrit. Alors que quand vous partez de cette thèse, je me dis que vous risquerez de tout fausser. Voyez-vous, aujourd'hui, l'éducation étant sacrée, et je crois qu'il est même du ressort de nos politiques de mener des campagnes de sensibilisation afin que les uns et les autres puissent limiter les naissances ou bien du moins arriver à espacer les naissances. Parce que ça ne sert à rien, comme je le disais tantôt, de mettre des enfants que vous ne pouvez pas bien éduquer, des enfants que vous ne pouvez pas vêtir, des enfants que vous ne pouvez pas nourrir. Hein? Et du coup,
donc est-ce qu'il faut passer par la contraception, par exemple? On parlait d'éducation d'un côté. Est-ce que la contraception aussi pourrait marcher? Je veux dire, ça a fait ses preuves dans d'autres régions du monde, hein, que ce soit la pilule ou le préservatif.
Oui, effectivement. Je pense que, en tout cas, tout ce qui peut concourir à espacer les naissances, et cela est une très bonne chose afin que nous puissions aller de l'avant. Sinon, cela va être un frein pour le développement socio-économique de nos pays. Et même récemment, le président a eu le dire dans l'un de ses messages à la nation, il faudrait que nous puissions parvenir à maîtriser vraiment le taux de natalité et de fécondité au Niger.
Très bien. Merci beaucoup, Abdoul Karim. Pardon de vous couper, mais on a encore beaucoup d'auditeurs qui nous attendent au standard. Vous nous appeliez depuis Niamey, 339 693 693 70. Roger, bonjour.
Bonjour Sébastien, je appelle à partir de Lubumbashi.
Voilà, en République démocratique du Congo. Et vous nous alertez sur les dangers de l'urbanisation.
Et les dangers de l'urbanisation, parce que dans mon quartier, auparavant, j'étais une famille dans une parcelle, actuellement la moyenne c'est 5. Et cela s'est vu aussi dans les transports en commun, l'éducation, vous trouvez dans une salle de classe beaucoup d'enfants, et la santé aussi, ça, les répercussions sur l'environnement, la gestion des immondices, tout ça, les fait perdre quand la population africaine doit doubler en 2050. Et c'est là que j'ai pensez aussi à cette éducation, hein, cette éducation qui pose tellement de problèmes. Beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas de qualification. Ça pourrait être un danger dans le futur.
C'est vrai que l'urbanisation, c'est un vrai problème. On parle de la RDC, justement. Kinshasa, en 2025, sera la 12e ville la plus peuplée du monde. Ce sera plus que Pékin, plus que Los Angeles. Roger, pour vous, il faut des vraies politiques, notamment pour le transport, pour l'habitat, pour pouvoir mieux absorber cette explosion de population, notamment en zone urbaine. Ou alors, peut-être, est-ce qu'une piste ne pourrait pas être d'attirer les gens en campagne, à l'intérieur du pays, hors des grandes villes?
Oui, le problème est qu'on n'a pas maîtrisé ces gens-là, parce que beaucoup de gens qui ont inondé la ville, qui ont fait que la ville soit saturée, les gens viennent de campagne. Pourquoi il n'y a pas assez d'activité, les gens souffrent là-bas, il n'y a pas des écoles, des hôpitaux, alors tout le monde veut rester en ville, c'est ça, il y a le problème. Il y a une politique, c'est construire des écoles, construire des hôpitaux dans des villages, et mettre aussi des entreprises hein, qui peuvent engager ces gens-là, qui peuvent les retenir de l'autre côté. Sinon, c'est compliqué.
Donc il faut rendre la campagne, l'intérieur du pays plus attractif, donner des infrastructures, dynamiser l'économie des campagnes. Merci beaucoup, Roger. Nous sommes en ligne à présent avec Issa qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Issa.
Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous voulez pointer du doigt le problème de répartition des richesses?
Oui, moi je dirais que en fait, l'Afrique n'a pas un problème de démographie, c'est même un continent très peu peuplé. L'Afrique c'est 1 milliard de personnes pour un territoire qui fait 3 fois la taille de l'Europe, qui compte 700 millions de personnes. C'est-à-dire combien de fois l'Europe est surpeuplée en comparaison à l'Afrique? L'Afrique a plutôt un problème d'éducation, de main-d'œuvre qualifiée, de gouvernance et surtout de partage de richesses. C'est-à-dire qu'une minorité n'atteint pas les richesses des nations et le reste de la population patauge dans la pauvreté. Bon, je donne un exemple. Hein. Pour des pays qui ont un SMIC de 50 euros, des ministres ont un salaire de 5 000 euros. C'est-à-dire que dans une même administration, il y a des personnes qui gagnent 100 fois le salaire des autres, sans compter tous les avantages qu'ils ont en plus. C'est pour un travail, pour le moins qu'on puisse dire, médiocre. Voilà. Si je compare un peu avec la France qui a un SMIC qui avoisine 1200 euros, vous imaginez s'il y a des gens dans l'administration française qui gagnent 120 000 euros par mois, vous imaginez?
Donc égalisons les richesses, répartissons mieux ces richesses du continent africain, notamment avec cette arrivée de population, hein, 2050, rappelons-le, la population africaine qui va doubler. Merci beaucoup Issa, on a encore le temps de prendre un dernier auditeur, Moussa qui est à Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Moussa.
Bonjour Sébastien, bonjour aux éditeurs du RFI.
Pour vous, que faut-il faire pour que cette explosion démographique ne soit pas un handicap pour l'Afrique?
Il faut passer par des mesures. Bon, il faut d'abord des politiques en matière d'emploi. Et dans un premier temps, je pense que les gouvernants doivent passer par la sensibilisation parce que si et la population comprend mieux, elle va donc pouvoir maîtriser parce que déjà les gens. En Afrique, les gens ont coutume de le dire que si l'enfant, c'est un don de Dieu, mais on constate que ce n'est pas le cas. Donc, il faut passer par la sensibilisation dans un premier temps aussi, miser sur l'éducation. Parce que plus les gens sont éduqués, plus les gens sont allés à l'école, ils arrivent mieux à contrôler la sexualité, à mieux planifier les naissances.
Moussa, est-ce que la contraception n'a pas un peu de mal à s'implanter dans les sociétés africaines notamment?
Effectivement, cela est dû aussi peut-être aux traditions qui sont beaucoup ancrées dans la mentalité des Africains. Et le taux d'alphabétisation aussi est moins élevé. Cela peut s'expliquer. Malgré le passé, nous voyons par exemple dans le contexte burkinabé, les gens sont passés plusieurs fois par des sensibilisations. Mais si la population n'est pas éduquée, quoi qu'on fasse, elles seront toujours tentées à se mettre dans la logique des anciennes pratiques, et c'est un peu un handicap, au fait.
Donc, arrêter de coller aux traditions et plus d'éducation pour peut-être faire baisser le taux de fécondité. J'espère que je résume bien votre propos, Moussa. Merci beaucoup. Vous étiez en ligne depuis Ouagadougou. On s'excuse auprès de Sédou qui nous appelait également de la capitale burkinabé. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans une prochaine émission. C'est la fin de cette édition d'Appel sur l'actualité. Merci à Carole, Quentin, Vanessa, Thomas et Emeric et Camille également. Merci à Arès et Benoît qui étaient à la technique. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Appel sur l'actualité. Nous parlerons de